vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. En ce mois de juillet 2025, je vous présente des récits incontournables, comme celui de Sophie Kinsella, voilà un grand nom de la littérature anglaise, même si elle a prénom Sophie Kinsella, frappée par une maladie incurable. Deuxième livre, celui de Sophie Chauveau, une grande dame de la littérature qui exprime son long parcours. Le troisième livre, c'est celui de Angela Marson, à découvrir vraiment. Le quatrième, celui de Lagal, c'est son nom, une artiste, et qui vient de Lausanne, un livre, elle raconte un livre. Celui de Bernard Courtebras, qui est le cinquième livre, le régional de l'Étype, qui de Bourg-en-Bresse, chez la Jeanne, qui est son QG, nous conduit à Los Angeles et de là jusqu'en Sicile. J'en dis pas plus pour l'instant. Le sixième livre, celui Cœur noir, un grand roman de Sylvia Avallon, qui parle de vie et de mort, en fait comme les autres déjà cités. C'est un peu le thème des uns et des autres, la vie et la mort, qui vient de remporter le prix Montbarbon 2025. Depuis quelque temps, la librairie Montbarbon décerne un prix littéraire et j'avoue que j'adhère à celui-ci, le prix Montbarbon, Cœur noir de Sylvia Avallon. Et enfin, après le fantastique Les piliers de la mer de Sylvain Tesson que je vous avais présenté, voici du même auteur Avec les fées. Alors, c'est paru en édition, je dirais, normale, mais je le préfère en folio parce que c'est une nouveauté en folio avec lesquels il va de l'Espagne longeant la côte jusqu'en Écosse, en passant par la Bretagne française, le Pays de Galles, l'Irlande et puis l'Écosse. C'est plein de références littéraires, voilà pourquoi je vous le propose plutôt dans cette collection de poche. Vous pouvez consigner les références. C'est parfait pour emporter pour les vacances, voilà. Que je vous souhaite heureuse. Alors je reviens sur le premier qui s'appelle, intitulé « Comment tu te sens ?» avec un point d'interrogation. C'est de Sophie Kinsella et ça vient de paraître aux éditions Belfond que je viens de recevoir et je les remercie infiniment. Et c'est la raison de cette émission ultime. Il y a des radios qui sont fermées déjà, mais pas celle-ci. Voilà pourquoi je peux vous en parler. Et si c'est une œuvre « Comment tu te sens » de Sophie Kinsella, si c'est une œuvre de fiction, à ce jour, c'est son livre le plus autobiographique. Et l'histoire d'Ève, son personnage central, est son histoire éprouvante. « elle est autrice au succès planétaire, ce qui est bien le cas de Sophie Kinsella, grande romancière anglaise, même si elle a repris le nom Sophie, le nom qui vient de sa mère, voilà, Sophie Kinsella. Et Eve, son personnage, se réveille un jour sur un lit d'hôpital sans aucun souvenir de ce qui l'a menée là. À ses côtés, son mari, Nick, grand personnage, qui la soutient beaucoup. Il lui explique qu'elle vient de subir une longue opération destinée à retirer de son cerveau une énorme tumeur maligne. Alors Eve réapprend à marcher, à parler, à écrire, même elle va pouvoir, pas tout de suite, mais peu à peu, raconter avec des fragments ce qui lui est arrivé et comment elle a pu réagir. Elle doit aussi digérer le diagnostic, car il était terrible ce diagnostic. D'après les médecins, il y a très peu de cas qui survivent au-delà de quelques mois, et trouver comment l'annoncer à ses cinq enfants, à leurs cinq enfants. C'est tous les deux qui ont cinq enfants. Et si beaucoup de souvenirs ont disparu, elle se raccroche à ceux qui réapparaissent, peut-être les plus importants. Voilà, oui. Et j'ai le cas aussi d'une parenté qui souffre comme ça, qui se souvient de certaines choses et pas d'autres. Donc, ceux qui réapparaissent peut-être les plus importants. Donc, ce récit est une promenade main dans la main avec son époux, des soirées entières de jeux de société en famille, une jolie robe dans une vitrine qu'on achète comme un symbole d'espoir. Le tout est raconté avec beaucoup de pudeur. Et dire en avril 2024 que Sophie a révélé à ses fans d'être atteinte d'une forme rare et agressive de cancer du cerveau. Et quand elle a commencé la chimiothérapie et la radiothérapie, il lui a fallu puiser largement dans son stock de courage. Grâce à la présence de sa famille, de ses amis, des lecteurs, de ses fans, qui sont bien présents aussi, du personnel médical et soignant, elle a pu tenir plus longtemps, plus de 2 ans maintenant. C'est donc un livre d'amour, d'optimisme, oui, et de résilience. En toutes circonstances, c'est son mot, le mot résilience, en toutes circonstances. Et j'espère que sa lecture aidera les gens qui doivent affronter des épreuves semblables. Et vous, lecteurs, si vous connaissez des personnes dans ces cas-là, voilà. Faites-leur lire ce livre d'amour et optimiste, pour finir. Et en soutien à la recherche contre le cancer, les éditions Bellefond, donc son éditeur, ont fait un don à l'Institut Gustave Roussy. Voilà ce que je devais vous dire à propos de ce premier livre, Comment tu te sens, de Sophie Kinsella, qui vient de paraître aux éditions Bellefond et qu'il faut lire absolument. Alors j'ai un deuxième livre. J'ai, avec un titre paradoxal, J'ai adoré mourir. C'est de Sophie Chauveau qui vient de paraître aux éditions Télémac. Et je remercie Gilles Paris pour cette diffusion attendue que je viens tout juste de recevoir. Autant être honnête, dit-elle, c'est elle, Sophie Chauveau, une grande dame de la littérature, qui a déjà écrit pas mal de choses. Autant être honnête, j'ai adoré mourir et voir ce fameux tunnel de lumière, ou plutôt être en train de mourir. Et comme ça m'est arrivé deux fois, à deux âges différents, une fois jeune et puis une fois un peu moins jeune, j'oserais presque dire que je sais de quoi je parle. Alors, dans ce texte important, Sophie Chauveau a rencontré intimement la mort et à l'occasion de celle de la chienne adorée de sa fille qui s'appelle Asa, parce qu'elle parle aussi dans ce livre des animaux proches, chats et chiens, qui ont fait partie de leur vie et qui ne sont plus. Alors on en rachète, bien sûr, parce qu'on aime la compagnie des animaux. Donc, adorée de sa fille, voilà, Asa, et qui se trouve en Israël. Alors elle parle beaucoup d'Israël, de ce qui s'est passé à Israël, parce qu'elle a en fait deux filles qui se retrouvent en Israël. Alors lui revient peu à peu, brutalement, le cortège de celles et ceux qui l'ont quitté et qui s'en vont de plus en plus nombreux au fil des années, parce qu'elle est à la veille de ses 70 ans, donc elle a déjà bien vécu et elle a fait de nombreuses rencontres. Et donc tous ces gens ont occupé une place essentielle ou fugitive dans sa vie, comme le cas, je en cite quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup plus, comme Marceline Loridan, le grand Maurice Clavel, qui a été son maître à penser, le grand Maurice Clavel, alors qu'elle avait qu'une vingtaine d'années, lui en avait plus de 50. Mais entre eux, un grand moment s'est passé. Honoré, le dessinateur de Charlie Hebdo, et les autres amis tués au Bataclan. Et puis, pour finir, elle parle de Philippe Solers, oui, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et combien d'autres qui ont partagé ses combats, ses indignations et ses engagements, notamment féministes et écologiques, mais avant l'heure de la mode des gauchistes qui parlent maintenant, elle était pionnière en féministe et en écologie. Elle s'est d'ailleurs un peu détachée de ces gauchistes aujourd'hui. Paradoxalement, cette évocation fait naître en elle un sentiment grandissant de sérénité joyeuse, malgré la peine de cette séparation ou de ces séparations. Elle ne dit pas ce qu'on va trouver de l'autre côté, après la mort, mais elle l'accepte avec sérénité. Elle nous raconte tout cela avec son écriture directe, sans artifice ni concession, et qui va droit à l'émotion. Très grande pour ses deux filles adorées. Oui, ces deux filles adorées très présentes dans ce livre, et qui sont mariées toutes les deux, et qui ont deux petits-enfants, deux petits-fils. L'un est déjà un petit peu garçonné, Arthur, mais le tout dernier est un bébé. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais il est là, et donc, pour elle, c'est précieux. C'est un récit. J'ai adoré mourir, de Sophie Chauveau, aux éditions Télémaque. C'est un récit singulier et émouvant, apaisé et lumineux. Elle nous donne une dernière citation, celle de Montesquieu. Montesquieu qui disait à un avare: « Vous faites bien d'amasser de l'argent pendant la vie. On ne sait ce qui arrivera après la mort. » Alors Sophie Chauveau amasse la joie pour après, voilà, et pour la partager avec vous. Et je vais parler donc du troisième livre, du troisième, qui est un roman noir, de chez Belfond, que j'ai bien reçu. Je remercie encore Belfond. Ça s'appelle « Faire le mort », vous voyez, c'est bien le thème de cette émission, « Faire le mort » de Angela Marsan, aux éditions Belfond Noir, donc. C'est tout à fait singulier, « Faire le mort » de Angela Marsan. Autrice aux 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Angela Marsan signe ici un nouveau thriller glaçant, inquiétant, enraciné dans l'Angleterre des West Midlands. Et elle nous plonge tout de suite à Westerley, qui est un lieu de cauchemar. Perdu dans la campagne anglaise, cette ferme des corps, oui, une expression un peu bizarre, étrange, cette ferme des corps, est un laboratoire à ciel ouvert où une dizaine de cadavres sont étudiés à différents stades de décomposition. Mais un matin est découvert un corps qui n'a rien à voir avec le programme de recherche. Ce corps, c'est celui d'une inconnue sauvagement mutilée, dont la bouche a été remplie de terre. Pourquoi ? Grande question. Alors que la capitaine, la femme qui va mener l'enquête, est une femme, la capitaine Kim Stone, et mène l'enquête, une nouvelle dépouille est retrouvée sur place. Même profil, même mode opératoire, et qu'est-ce qui pousse un serial killer à sévir dans un endroit si particulier? Grande question là encore. Tandis qu'une journaliste locale, qui est efficace, semble-t-il, parce qu'elle avait su des choses, disparaît et pourrait être la prochaine victime, Kim Stone et son équipe vont devoir creuser cette terre mortifère pour en extraire les secrets d'un ou d'une meurtrière effrayant. C'est en lisant ce livre que vous saurez si c'est un meurtrier ou une meurtrière effrayant qui se dissimule derrière ces morts. Voilà. Donc, je vous laisse lire « Faire le mort » de Angela Marson aux éditions Bellefond Noir. Et je présente maintenant « Dead Drop », un terme anglais, « Dead Drop ». C'est de La Galle, je vous ai annoncé, « La Galle » aux éditions La Veilleuse, que je remercie parce qu'ils m'ont fait parvenir ce livre qui vient de Suisse. La Veilleuse. La Galle est une auteure-compositrice, rappeuse et comédienne lausannoise, d'origine libano-suisse. En activité réduite, comme l'éditeur, La Veilleuse, en activité réduite comme une lampe allumée en permanence de façon durable et attentive à l'environnement dans lequel nous vivons, La Veilleuse s'engage à faire découvrir des façons inédites d'appréhender, de narrer ou d'écrire le monde. Voilà. Et je le remercie infiniment, car en plus je connais cette Suisse-là de Lausanne et du canton de Vaud qui est décrit dans ce roman. Même si, comme le dit ce récit, eh bien, cette Suisse-là, que j'ai connue dans mon enfance, elle a changé. Elle le dit aussi dans le livre. Parce qu'elle a perçu aussi ce changement. Son personnage central se nomme Raizo, trentenaire et orpheline. Elle ne connaît rien de son passé familial. Dans les combles d'un immeuble délabré de Lausanne, elle orchestre un réseau de livraisons anonyme grâce à des cachettes urbaines. C'est ce qu'elle appelle ces dead drops, les cachettes urbaines. Et lorsque l'une de ces transactions dépasse largement les sommes habituelles et qu'un fichier énigmatique apparaît sur son ordinateur, son univers soigneusement verrouillé commence à s'effriter. Une mystérieuse organisation qui la surveille et qui semble tout savoir sur elle, c'est ça qui lui fait peur. Depuis des années, va l'entraîner dans un jeu pernicieux où chaque indice semble creuser davantage le gouffre entre son quotidien et un passé qu'elle a toujours cherché à fuir. Voilà, donc tout cela est vraiment très très bien exprimé. Piège entre paranoïa et réalité. Réseau et ses amis, car elle a des amis, heureusement, qui vont l'aider, devront naviguer dans un labyrinthe de codes, de menaces et de révélations. Tout en affrontant leurs propres démons, voilà, on a des démons à affronter dans une course contre le temps. Oui, vous aimerez... Vous découvrirez et aimerez cette nuit noire terrible qui s'appelle « Dead Drop » de La Galle aux éditions La Veilleuse. un cinquième livre aussi, qui est une très belle prouesse, une réelle prouesse, de la part de Bernard Courtebras. Ça s'intitule « La femme du lieutenant ». C'est aux éditions Nombre 7, petit éditeur local. L'auteur est un ancien maître de conférences spécialisé en histoire, sociologie et didactique du calcul des probabilités et en sociologie de la socialisation et de la forme scolaire. C'est très technique. Mais il a été arrêté pour une maladie et à 70 ans, il imagine écrire ce premier texte qui est une évocation, je peux bien vous le dire, du lieutenant Colombo dont il était un fan. Et depuis, son QG, c'est chez la Jeanne à Bourg-en-Bresse, le café, vous savez, chez la Jeanne, eh bien, il se devient un journaliste en herbe et il va aller à la rencontre de ce lieutenant. Il va enfin découvrir le visage de la femme du lieutenant parce qu'il retourne à Los Angeles, début des années 2000, une femme que personne ne voit jamais, mais dont l'existence n'est attestée que par son seul mari, le flic le plus célèbre de la ville de Los Angeles. C'est Peter Falk, bien sûr, qui tient le rôle de Colombo. Et il parle, il aime bien parler, dire « Ah ben ma femme, elle dit cela » ou « Voilà ». Mais on ne la voit jamais. Mais lui, Bernard Courtebras, journaliste, ami du lieutenant, qui pose des questions et se pose des questions. Donc une enquête qui va voir le jour encore aujourd'hui, qui piétine et qui les conduit de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Sicile, dont la femme était originaire. Un jeu de dupes convaincant, très convaincant. D'autres lecteurs qui l'ont lu ont vraiment beaucoup aimé « La femme du lieutenant » de Bernard Courtebras. Je vous ai dit, c'est une prouesse, réelle prouesse, pour un premier texte, premier roman. Jeu de dupes convaincant où chacun cache et se cache, mais de qui et pourquoi, c'est ce que vous découvrirez si vous ne l'avez déjà découvert. Une dernière enquête du lieutenant finement menée grâce à l'aide du journaliste. Écoute, comme tout se termine dans la bonne humeur et par une chanson, que je vous donne parce que je retrouve une chanteuse que j'avais beaucoup aimée, Angélique Ionatos, Michel Buller, Marie-Josée Villard. Voilà ce que dit cette chanson sur l'Italie. Un parasol à midi, l'ennui des nuits d'insomnie, quelques valises à boucler, l'Italie pour danser, l'Italie a, je ne sais quoi, que les autres n'ont pas, ça, l'Italie l'a, voilà. Le fait, donc, grand livre qui fait revivre le commissaire Colombo, qui a malheureusement disparu, Peter Falk, mais qu'on trouve toujours à la télévision, voilà. Donc on peut écouter la musique. Eh bien voilà, une bien belle musique de Mozart, interprétée par Katia Bunyatishvili, que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais partager avec vous cette sonate de Mozart pour vous souhaiter de bonnes vacances. Et je vais parler maintenant de Cœur noir de Sylvia Avallon, qui est un grand roman. Il a reçu le prix de la librairie Montbarbon 2025, donc cette année. C'est un roman intense, une histoire bouleversante. Avec ce roman, Cœur noir, Sylvia Avallon signe un roman de la maturité. Et elle s'impose comme l'une des voix les plus puissantes de la littérature contemporaine, pas seulement italienne, ça se passe en Italie, Cœur noir. Mais justement, une voix des plus puissantes de la littérature contemporaine. Elle vit à Bologne, qu'elle cite plusieurs fois donc, dans ce roman, dans ce récit, où elle fit des études de philosophie. Voilà pourquoi il y a une interrogation sur la vie et la mort. Et dans les hauteurs d'un petit village de montagne nommé Assasaïa, commune d'Alma, vient s'installer un jour d'automne dans la maison d'une tante qui n'est plus, donc cette maison est libre, Emilia, le personnage principal de cette histoire. Et par la fenêtre de la maison d'en face, il y a Bruno, qui est le maître d'école de 13 élèves. Bon, c'est vrai que il y avait un village plus important et puis maintenant il n'y a que 13 élèves. Et ce maître d'école, Bruno, l'épie. Il est bien résolu à défendre son espace de tranquillité. Alors voilà, on va découvrir pourquoi il a besoin, lorsque il a quitté l'école et ses élèves, il vient se retirer dans ce hameau pour avoir un espace de tranquillité. La jeune femme qui a été aidée par Ricardo, son père, qui est un très beau personnage, qui est un peu coupable parce que quand il travaillait, il ne s'est pas trop occupé de la jeune femme, de la jeune fille, de son enfant. Mais là, il est vraiment très très bien. Et elle finit pourtant par entrer dans la vie tout en ne dévoilant rien d'elle-même. Voilà, donc il va y avoir une rencontre entre Emilia et Bruno. Et puis il y a même aussi un artiste peintre, un vieil homme qui vit sur le village, sur le village, et qui sera d'un grand secours. Alors pourquoi est-elle là ? A-t-elle quelque chose à cacher ou un terrible secret à ne pas dévoiler ? Et lui, pourquoi n'a-t-il jamais quitté ce hameau perdu ? Chacun devine chez l'autre un abîme pareil au sien. Mais rien ne semble pouvoir faire tomber les masques. Donc, c'est peu à peu qu'on va découvrir les masques qu'il dissimule. Ce village de Sassaya est leur refuge. Emilia est une artiste. Elle aura de quoi faire des restaurations de chapelles, d'une Vierge, une Pietà, grâce justement au vieux sage, qui était un artiste peintre aussi, qui lui donnera des conseils. Donc elle a de quoi s'occuper. Afin d'échapper au passé douloureux, parce qu'elle a un passé douloureux qui revient comme ça, sans cesse, un peu dans ses cauchemars, la perturber. Mais gare à la médisance, parce qu'il va y avoir de la médisance dans cette petite ville de montagne, où tout le monde, il y a un café, où tout le monde s'observe, voilà, et il y a quelqu'un, une femme jalouse, qui va révéler qui est le drame qui a perturbé cette femme, Emilia, avec un cœur noir, qu'il leur faudra surmonter ces médisances pour enfin croire et bâtir un avenir fait de pardon, d'amour et d'amitié. Voilà. Oui, le cœur noir est une grande histoire d'amour, de violence et de rédemption que je vous invite à lire. Absolument. Sylvia Avallon, Cœur noir, qui vient de paraître aux éditions Liana Lévy, et qui a eu le prix Montbarbon de la librairie Montbarbon 2025. Alors, je vais vous parler aussi d'un grand personnage, d'un grand aventurier d'aujourd'hui. Il s'appelle Sylvain Tesson. Même s'il a eu plein de problèmes, qu'il a fait des chutes, qu'il est tombé, Je vous avais parlé de lui, Sylvain Tesson, en vous présentant un grand livre qui était paru chez Albin Michel, Les piliers de la mer, où dans lequel, avec son ami Du Lac, un escaladeur hors pair, et puis Olivier, lui qui s'occupait des vivres, parce qu'ils vont pouvoir monter sur les stacks, donc aller jusqu'en mer, au pied de ces stacks. Ces stacks qui sont les piliers de la mer, détachés de la côte, et ils vont aller depuis celle d'Étretat. Maurice Leblanc l'a utilisé pour son roman Les Huit Creuses. Mais ils vont aller autour du monde, retrouver et escalader ces sentinelles de roches qui se dressent par milliers devant les falaises côtières. Et c'est dans cette œuvre que je vous avais présentée avec beaucoup d'enthousiasme, Les piliers de la mer, car c'est extraordinaire, c'est dans cette aventure prestigieuse qu'il évoque son livre Avec les fées. Et c'est celui-là que je vous présente aujourd'hui. Avec les fées de Sylvain Tesson, une invitation à la beauté, et je vous le propose en collection folio. C'est une nouveauté en folio. Il est paru avec les éditions de temps en temps. Il va chez Gallimard, mais il va aussi chez d'autres comme l'Équateur. Mais je préfère en folio car il y a de nombreuses références littéraires à noter, donc c'est plus facile de l'emporter dans son sac de voyage. Le mot fée signifie autre chose. C'est une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle, une sorte de miracle. on regarde le monde avec déférence. Soudain, un signal. La beauté d'une forme éclate. Je donne le nom de fée à ce jaillissement. Avec pour explorer, avec lui, parce que lire avec les fées, de Sylvain Tesson, c'est partir en exploration. Et donc, pour partir en exploration, il y a des cartes jointes, même dans cette belle édition folio. On va de l'Espagne, les Asturies, en Bretagne, la pointe du Raz, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Donc, vous voyez, un long parcours. C'est un cordon littoral qui court de la Galice espagnole jusqu'au Shetland écossais. Donc voilà, c'est un grand grand voyage. Hérissé d'ajoncs, salé d'embruns, surveillé par des mouettes, elle ricane de voir la mer s'enrager en contrebas. Chaque soir, le soleil venait mourir au bord de ce balcon. Voilà, c'est une sorte de balcon. Les fées avaient dû se réfugier dans ses extrémités, à la pliure de la terre, de la lumière et de la mer. Les promontoires, voilà, ils affrontent les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du Pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande et de l'Écosse, dessinant un arc, voilà. Par voie de mer, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Et pour partir, pour affronter tout cela, il y a un voilier de 15 mètres de long, qui m'attendait au port de Gijon. À bord, deux amis, Arnaud Humann et Benoît Le Théron. Benoît Le Théron, c'est le grand personnage, le grand navigateur. Benoît Le Théron, il a tout un passé précieux. Préparer l'appareillage. Nous naviguerons vers le nord, passant en revue les promontoires où les vieilles présences attestaient chaque soir les adieux du soleil. Et je me donnais trois mois, oui, ce récit se déroule sur 3 mois, pour essayer d'y voir avec les fées. Voilà, c'est ça que je vous propose de lire, ce petit texte paru en folio, nouveauté en folio, une invitation à la beauté. Les promontoires donc de Galice, Bretagne, Cornouailles, Pays de Galles, l'île de Man, de l'Irlande, de l'Écosse, dessinaient un arc. Voilà. Je partais avec les fées. Et si vous partez avec Sylvain Tesson et les fées, eh bien vous partez vous aussi avec les fées. Au rythme des courants ou de vent, Sylvain Tesson, parce que lui, il va à terre, donc il escalade, il observe, il voit les choses, il décrit les choses. Et puis, quand il a fini, ben, il repart en mer avec le bateau et ils vont plus loin. Donc il y a des cartes, voilà, jusqu'en Écosse, jusqu'en Shetland. Et je vous laisse découvrir donc tout ce qu'ils vont découvrir d'anciens ou de nouveaux. Voilà. Et je peux vous dire, ben voilà, bonnes vacances et à bientôt, j'espère, à la rentrée, que si tout se passe bien, qu'on se retrouvera. Voilà, au revoir, bonne lecture. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.